rejoins complètement Monsieur David Mainborn, hein, quand il dit que il y a des choses comme ça que l'on vit, que l'on voit, hein, qui ont créé une espèce d'excitation et dont le souvenir se perpétue. Mais Jésus-Christ est venu changer ma vie, hein, on a vu tout à l'heure, hein, je regarde pour ceux qui n'ont vu la deuxième partie, hein, on a vu tout à l'heure que moi je me suis efforcé de réfugier deux notions qui sont fausses, hein. C'est celle qui consiste à dénigrer la sexualité comme quelque chose de sale, hein. Le catholicisme médiéval et les sectes font ça, c'est sale, ça touche, ça n'a rien à voir avec Dieu, ça n'a rien à voir avec ce qui est bon pour un homme, etc. Donc on a répudié cela, et puis on a aussi répudié cette sexualité débridée, hein, qui s'exerce aujourd'hui de manière tout à fait anormale dans tous les sens, parce que l'amour n'est plus là, c'est plus l'amour qui existe, c'est le désir, c'est la convoitise, hein. Ce n'est plus j'aime et je veux donner, c'est je convoite et je veux prendre pour ma satisfaction personnelle. Donc nous avions vu que la sexualité était voulue par Dieu, nous avions vu aussi qu'elle était créée par Dieu pour l'homme, hein, l'homme spécifiquement, qui vit une relation constante. Sa sexualité n'est pas coupée en morceaux, là, comme les animaux qui ont une espèce de rut, une espèce d'instinct sexuel pendant quelques temps dans l'année. Non, l'homme vit sa sexualité, elle a été créée par Dieu pour l'homme, il vit cette sexualité dans le cadre de l'amour, avec l'amour dans le cadre du mariage. Et nous avions vu aussi, malheureusement, que c'était quelque chose qui pouvait être dénaturé, et bien des hommes ont mal utilisé la sexualité. Maintenant, nous allons voir quelle est la finalité de la sexualité, quel est le sens de la sexualité, qu'est-ce que j'entends par là? Je pose ici la question, à quoi sert-elle? À quoi sert-elle? Si vous posez la question aujourd'hui aux jeunes générations, ils nous diront, pour ma satisfaction. Pourquoi Dieu nous a-t-il accordé la sexualité? Alors, pour la Bible, je vais forcer de le démontrer, hein, ne l'acceptez que si je peux en faire la démonstration. Alors. Pour la Bible, la sexualité humaine a un triple sens, un triple objet. La première chose, c'est la procréation. La procréation est de toute évidence fondamentalement liée à la sexualité, c'est vrai dans l'expérience humaine. En général, beaucoup de gens se marient encore parce qu'ils ont l'intention de fonder un foyer, d'avoir des enfants, hein, et bien que cette notion-là soit en perte de vitesse. La notion de plaisir et de satisfaction personnelle a largement supplanté cela dans l'esprit de plusieurs. Moi, j'allais régulièrement en Allemagne. En Allemagne, c'était catastrophique. En Allemagne, les gens se mariaient et disaient d'emblée, nous ne voulons pas d'enfants. Tant et si bien que la natalité en Allemagne est descendue nettement en dessous de 1,3. Deux personnes donnent 1,3. Vous voyez où la tendance... Alors c'est une société qui est en dégénérescence, hein, et eux, s'ils ne laissent pas entrer... une immigration intelligente, là, c'est un pays qui est amené à disparaître à cause de l'égoïsme, à cause d'une mauvaise conception de la sexualité. En France, nous avons toutes sortes, il y a de la place là-bas, au fond là-bas. En France, nous avons toutes sortes, d'incitations, hein, à avoir des enfants. Vous avez les fameuses allocations familiales, et si vous avez deux enfants, c'est bien, mais si vous avez trois enfants, alors on vous donne plus. Hein, parce qu'on cherche ce troisième enfant qui est synonyme d'essor démographique, de développement démographique. Mais en Europe, la natalité est vraiment... on perd de vitesse, et pourtant il est clair que la procréation constitue un aspect indéniable de la vie sexuelle, de la sexualité, selon la Bible, dans le récit de la création, dans Genèse chapitre premier, verset 28, la Bible dit, Dieu les bénit, et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, assujettissez-la, dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur tout animal qui se meut sur la terre. Donc, il y a un mandat très clair, une mission très claire, y compris à l'humanité, de procréer, de se développer, de coloniser la terre, de tout assujettir, mais dans le bon sens du terme. Hein. Il y a eu une autre très mauvaise utilisation des choses par l'homme. Une exploitation maladroite, égoïste encore une fois, des biens et des ressources. Bon, quand Dieu dit dominer, assujettissez-la, et dominer sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, il y a une domination, il y a un exercice, il y a une hégémonie de la race humaine, de l'espèce humaine, sur les espèces animales. Elle est claire, elle est nette, là. Mais revenons à la chose essentielle, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre. Pour la Bible, vous l'avez lu, n'est-ce pas? Avoir des enfants est une bénédiction. Aujourd'hui, c'est quoi? Beaucoup de gens disent, enceinte, oh là là, quelle catastrophe. On a l'impression que c'est un drame. On a l'impression que c'est une tragédie. Mais c'est parce qu'il y a des considérations autres qui viennent perturber ça. L'intranquillité. Il va falloir qu'on ait une maison plus grande, un appartement plus grand, je ne sais pas quoi, des considérations économiques. Mais pour la Bible, avoir des enfants est une bénédiction. S'aimer pour l'homme et la femme, c'est vouloir des enfants. Et c'était une tragédie quand il n'y avait pas d'enfants. C'était considéré comme vraiment presque une malédiction. Hein. Que d'être stérile, que d'être sans enfant. Mais le refus de l'enfant, sauf circonstances particulières qui mettraient en danger la vie de la femme ou je ne sais quoi, le refus de l'enfant est un refus du mandat que Dieu a confié au couple humain, mandat qui est lié à celui d'être fécond, de multiplier, de remplir la terre, de dominer la terre. Donc que la sexualité soit au service de la procréation, ne faites aucun doute. Mais que ce soit la seule raison d'être, ce n'est pas ce qu'on s'intéresse. Il est frappant de constater que dans le Nouveau Testament, ni Jésus ni Paul, quand ils parlent du mariage, n'évoquent la procréation des enfants. Malheureusement, plus tard, sous l'influence de courants de pensée, encore une fois, on revient à cela. L'influence de courants de pensée dualistes, les platoniciens, comme nous l'avons vu tout à l'heure. Les théologiens ont rétréci le sens de la sexualité pour n'y voir qu'une seule justification, et cette justification, c'était la procréation. Autrement dit, la sexualité ne pouvait s'exercer que s'il y avait volonté d'avoir un enfant. C'était là, on recherchait l'enfant. Je crois que notre ami, là, se souvient très bien d'un certain Justin Martyr. Posez-lui la question tout à l'heure pourquoi je l'ai ciblé en particulier. Et pour ceux qui sont à ma droite, là, j'ai ciblé M. Karehavet, ok? Donc allez trouver M. Karehavet et demandez-lui pourquoi je lui ai posé cette question au sujet de Justin Martyr. Mais Justin Martyr, au deuxième siècle, disait, en parlant des chrétiens, il disait, nous ne contractons mariage que pour avoir des enfants. Que. Et là où je tique. Que pour avoir des enfants. Au début du IIIe siècle, Clément d'Alexandrie écrivait, la loi chrétienne veut que les maris aient rapport avec leurs femmes uniquement pour mettre des enfants au monde. Et vous avez pu vous en rendre compte comment ces idées-là ont infléchi la pensée du catholicisme, notamment. Parce que c'est ce que préconisait le catholicisme pendant des lustres et des lustres, pendant des siècles et des siècles. En fait, nous avons ici un rétrécissement regrettable que l'Église romaine a longtemps perpétué. Si la procréation était la seule raison d'être de la sexualité, alors je dis, l'amour n'y trouverait pas son compte. L'amour que doivent se porter deux êtres, un homme et une femme mariés, ne trouverait pas son compte. L'homme en viendrait à ne voir dans la femme qu'une reproductrice et non un être aimé. Et la personne de la femme alors aurait moins d'importance que sa capacité à faire des enfants. J'aimerais mon épouse de la même manière que nous n'avions pas eu d'enfants. Parce que c'est elle que j'aime, de tout mon cœur. L'histoire nous a donné de nombreux exemples de souverains, des rois, qui ont cherché à se marier ou se remarier si le premier mariage s'était révélé stérile, pour assurer la dynastie, n'est-ce pas? Vous vous en souvenez, vous avez étudié l'histoire de France, l'histoire du pays, et c'était ainsi que cela se passait. On répudiait allègrement une première épouse qui ne donnait pas assez rapidement un descendant au trône. On peut encore citer le cas extrême de ces maisons de reproduction, je crois qu'elle s'appelle Lebensraum en allemand, au temps de l'Allemagne nazie. Et l'Allemagne nazie, hein. Vous savez, j'aimerais faire une parenthèse. J'ai lu un livre récemment qui m'a été offert par mon ami Luther Well sur l'époque du nazisme, là. J'avais entendu par les uns et par les autres, ce sont les chrétiens, ce sont les protestants qui ont persécuté les juifs, etc. Lors d'un 45e anniversaire de l'État d'Israël, au cours duquel Monsieur Lord et quelques autres pasteurs cherchions à encourager nos amis d'Israël, en leur disant que les chrétiens bibliques trouvaient leur source dans l'Ancien Testament, les chrétiens bibliques étaient proches d'Israël et qu'on croyait que Dieu avait encore un futur pour Israël, que Dieu avait encore un projet grandiose pour Israël. Nous voulions partager cela avec eux. Et malheureusement, on n'a pas eu l'occasion de le faire parce qu'un groupe de juifs ultra a pénétré dans la salle à Paris, près de l'Arc de Triomphe, et a renversé les tables, menacé les gens, ils nous ont pas permis de nous exprimer, etc. Et nous ne pouvions plus nous exprimer publiquement, nous ne pouvions que le faire en petits groupes. Et lorsque j'ai commencé à parler avec des petits groupes de juifs, en leur disant, oui, c'est vrai, nous sommes chrétiens. Oui, c'est vrai, nous croyons en Christ, nous croyons dans la parole de Dieu, etc. Je me souviens d'une dame qui me disait, oui, mais vous avez persécuté, hein, les juifs. Vous avez mis à mort les juifs. Et à cette époque-là, je disais, mais non, ce ne sont pas les chrétiens qui ont persécuté les juifs, parce que les chrétiens bibliques n'ont jamais persécuté personne, ils n'ont jamais cherché à imposer leurs convictions par la force. Et dans mon esprit, je pensais, bon, ce ne sont pas les chrétiens, c'était l'église catholique, c'était les protestants qui avaient fait cela. Mais j'avais déjà quelques suspicions, hein, sur cette époque noire du nazisme en Allemagne. Je savais que Hitler était un homme qui s'adonnait à l'occultisme. Je savais que c'était un homme qui présentait pas mal de, je dirais, d'attaches, de liens à l'occultisme. Mais ce livre a été révélateur. Parce que Hitler a envahi les églises, hein, chrétiennes, évangéliques, protestantes, et a remplacé les pasteurs qui étaient là par des pasteurs avec une idéologie, avec une théologie arienne. C'est-à-dire que ce n'était plus le centre, d'ailleurs, les portraits de Jésus-Christ, les croix, tout ça, avaient été enlevés des églises, et on avait mis le portrait d'Hitler. Le drapeau chrétien qui existe sur certains pays, il y en a un aux États-Unis, il y en a en Allemagne, il n'y en a pas en France, parce que les Français n'aiment pas les drapeaux, hein, ils n'en mettent nulle part. Les drapeaux chrétiens avaient été remplacés par les drapeaux frappés de la croix gammée. Mais le pire, c'était ces pasteurs qui avaient été mis en place pour remplacer les autres. Ces pasteurs-là prêchaient que la rédemption du peuple allemand allait passer par le sang versé par les nobles soldats du Reich. Et que c'était ça, la rédemption, pas celle d'un juif qui était mort il y a 2000 ans. Vous voyez un petit peu le genre de message qui passait. Ça n'a plus rien à voir, le christianisme. C'était des païens. C'était des païens. Des païens qui étaient attachés aux mythes allemands, hein, de la race du surhomme, hein, qui étaient attachés aux grandes légendes allemandes, à Siegfried, Lohengrin. Je ne sais pas si vous avez fait de l'allemand, mais nous, ils nous faisaient lire ça en allemand. Alors, eh bien, les Allemands, l'Allemagne nazie, les païennes, Il y avait ces maisons de reproduction où des jeunes filles bien ariennes, non mariées, étaient fécondées par des SS. On voulait créer la surrace, la race pure, la race soi-disant non souillée. Heureusement, ce n'est pas le christianisme. Et à ce sujet, j'ai ma propre thèse. Il n'y a rien dans les Écritures. Rien dans les Écritures qui indique que Adam ait été blanc. Moi, je crois qu'au départ, la race humaine était tous les gènes là, que nous voyons s'exprimer maintenant dans la diversité de se trouver en Adam, et le fait que nous sommes éparpillés à travers le monde a fait que des groupes ont eu des relations et des races se sont constituées. Mais rien ne nous permet de conclure là, que Adam était blanc. En fait, dans les Actes des Apôtres, l'apôtre Paul dit bien que nous sommes tous issus d'un même sang, donc frères. Mais balayez toutes ces notions de racisme là, de race. Balayez. Alors, en Allemagne, il y avait ces maisons de reproduction, et le seul but, c'était de procréer. Alors, il y avait les femmes qui étaient fécondées là, par les nazis. Et puis, le gars parfait, il n'y avait pas de relation d'amour, il n'y avait rien du tout, il y avait juste une relation sexuelle pour créer un enfant, et puis les crèches pour accueillir ses enfants, et puis à continuer de reproduire, et de reproduire, et de reproduire. Une monstruosité idéologique. Mais la fécondité, c'est une bénédiction ajoutée à notre cadre de l'amour et du mariage. La refuser, c'est refuser un don de Dieu. Mais je répète, ce n'est pas la seule raison d'être de la sexualité et du mariage dans la perspective biblique. Alors là, accrochez-vous, vous êtes bien assis, parce que le second point, la seconde chose, la seconde intention de Dieu en ce qui concerne la sexualité, c'est le plaisir. Alors ne me regardez pas comme si j'étais un hédoniste. Ne me regardez pas comme si j'étais un vil jouisseur de la pire espèce, non. Je sais que le simple fait d'évoquer dans le cadre d'un message biblique, dans le cadre de réunions chrétiennes, la notion de plaisir surprend, et pourtant je vous garantis qu'elle est dans les Écritures, cette notion-là. Alors, évidemment, on est toujours encore perturbé par certaines notions qui nous viennent des religions, qui ont vu dans le plaisir sexuel quelque chose de mauvais. Et certaines d'entre elles qui ont vu dans le plaisir sexuel quelque chose de dangereux, quelque chose qu'il fallait réprimer. Ainsi, au XIXe siècle, on a parfois enseigné aux femmes qu'il était honteux de ressentir du plaisir dans l'acte conjugal. Il y a des ouvrages qui reflètent ce genre d'enseignement. Il n'est donc pas étonnant de lire à ce sujet des déclarations fracassantes, comme celle d'un certain docteur Zwang, un sexologue. Il a dit, nous sommes tous occupés à lever le handicap judéo-chrétien. Le handicap judéo-chrétien. Encore une fois, la fameuse thèse que ce sont les valeurs judéo-chrétiennes qui freinent le plaisir humain, le bonheur humain. Et il ajoute, cela fait plus d'une dizaine de siècles qu'on a réprimé en nous toute tendance au plaisir. Voilà qu'on ne va pas aider les gens à se tourner vers le christianisme. S'ils se disent que dans le christianisme, c'est aller à l'église tous les dimanches, et puis c'est de se priver encore des choses agréables de la vie. Mais cette répression n'est pas biblique. Elle n'est pas biblique. Ses racines ne viennent pas des Saintes Écritures. Ses racines viennent davantage de la pensée grecque que de la pensée biblique. Ainsi, je ne sais pas si vous êtes familiarisé avec les pythagoriciens, donc le Pythagore n'était pas simplement mathématicien, c'était un philosophe aussi. Eh bien, un certain Sextus disait, trop d'amour pour sa femme, c'est de l'adultère une honte. Vous vous rendez compte? Donc il fallait encore pas se limiter à ces simples actes sexuels en vue de la procréation. Quand des théologiens ont emboîté le pas, ils l'ont fait non pas pour s'appuyer sur la Bible, en s'éloignant de la Bible. Là, vous allez me dire, mais M. Dodet, vous n'avez rien trouvé encore. Vous parlez des philosophes, hein, et de l'influence des philosophes, là. Alors, dans aucun texte de la Bible relatif au mariage, on ne trouve une condamnation du plaisir. Au contraire. Vous êtes tous tombés sur le Cantique des Cantiques, n'est-ce pas? Qui n'a pas lu? Qui n'a pas lu le Cantique des Cantiques? Je vois avec plaisir que vous avez tous ouvert la Bible et lu le Cantique des Cantiques. Bon, le Cantique des Cantiques est un des plus beaux chants d'amour de tous les temps. Et ce Cantique des Cantiques ne craint pas de célébrer le plaisir, que se donnent les amants. Alors lisez, ouvrez votre Bible, si vous pouvez encore le trouver, le Cantique des Cantiques, hein, c'est pas aussi facile que Jean, hein, voilà. Cantique des Cantiques, chapitre 4, le verset 10 et 11, et ensuite on portera nos regards vers le verset 16, verset 10 et 11 d'abord. Cantique des Cantiques, chapitre 4. Certains l'ont déjà trouvé, d'autres sont encore en train de feuilleter. D'autres se demandent si c'est dans la Bible. D'autres le cherchent dans le Nouveau Testament. Bien, je vais vous le lire. Si vous n'avez pas encore trouvé, écoutez attentivement. De toute façon, les autres sont là pour attester que je suis bien en train de lire le Cantique des Cantiques. Je vois avec plaisir que pour tourner des pages, il faut parler. Hein. Chapitre 4 de Cantique des Cantiques, au verset 10, j'ai dit 10 et 11. Hein. Tu me ravis le cœur, ma sœur, ma fiancée. Tu me ravis le cœur par l'un de tes regards, par l'un des colliers de ton cou. Que de charme dans ton amour, ma sœur, ma fiancée. Comme ton amour vaut mieux que le vin, et combien tes parfums sont plus suaves que tous les aromates. Wouh, wouh, wouh. Ça, c'est le genre de verset que j'ai envoyé à ma femme quand je la baptisais. Hein? C'était à la fois gentil et biblique. Hein? Verset 16, la deuxième partie. Hein? Vous avez lève-toi, sinon laissez tomber cela. Regardez ce qui suit là. Que mon bien-aimé entre dans son jardin et qu'il mange de ses fruits excellents. Bon, vous avez un langage là qui est clair, hein, quand même. Non. S'il n'y a pas de plaisir, là, je ne sais pas ce que c'est. Hein. Je ne sais pas ce que c'est. Alors, évidemment, je ne cacherai pas que certains ont tout de suite cherché à entièrement spiritualiser ce texte, hein, en disant, il ne faut pas le voir comme ça, hein, c'est simplement l'amour que Dieu porte à Israël, c'est l'amour que Jésus-Christ porte à son Église, et moi je dis, Dieu aime Israël et Dieu aime l'Église, mais le message premier, indubitablement, est une histoire d'amour. Ça c'est clair et c'est net, le message premier. Vous pouvez ensuite faire les applications en spiritualisant cela, mais le message premier c'est un langage d'amour. Alors vous me direz, oui, mais c'est un petit peu tiré par les cheveux, l'enfant du Sidonien, non? Non. Regardez dans les Proverbes, chapitre 5. Proverbe chapitre 5, parce que je sens qu'il y a encore quelques-uns là qui sont coincés en disant non, il n'y a pas de plaisir là, je ne sais pas ce qu'il invente ce gars-là. Proverbe chapitre 5, où on a des conseils qui sont apportés à un jeune époux. Vous l'avez déjà trouvé, moi je suis encore en train de chercher parce que je n'arrive pas à respirer, laisser mon cœur battre, tourner les pages de la Bible et parler en même temps. C'est trop compliqué, hein, pour mon esprit, je suis très limité. Alors, Proverbe chapitre 5, verset 18 et 19. Que ta source soit bénie et fais ta joie de la femme de ta jeunesse, biche des amours, gazelle pleine de grâce, sois en tout temps enivré de ses charmes, sans cesse épris de son amour. Qu'il y en a qui viennent me dire que dans la Bible, on ne parle pas de ce plaisir à s'aimer. Que quelqu'un vienne me trouver en disant cela encore. Moi, j'ai quelques arguments à lui proposer. Là. Bon, je vous rappelle que l'apôtre Paul a dit que tout ce que Dieu a créé est bon, pourvu qu'on le prenne avec action grâce. Certes, il parle d'aliments, mais il a dit tout ce que Dieu a créé, pas simplement les aliments. Dieu qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en bénéficions. On a déjà vu ce texte, n'est-ce pas? Dans la première épître à Timothée, chapitre 6 et verset 17. Ailleurs, dans 1 Corinthiens, chapitre 7, quand il parle du mariage, quand il corrige les graves aberrations qui se produisaient à Corinthe, où les uns disaient, oh, maintenant qu'on est chrétien, c'est plus la peine de se marier, et de toute façon, le corps est pas bon, et il n'y a que l'esprit qui est bon, et influencé qu'ils étaient par la philosophie grecque. Eh bien, l'apôtre Paul a dit, dans chapitre 7 et verset 5, de ne pas se priver l'un de l'autre. Que l'on devait se donner l'un à l'autre. Mon corps ne m'appartient pas, il appartient à mon épouse. Il n'y a personne d'autre, sauf au Seigneur. Mais notre relation est une relation intimiste que je ne partagerai avec personne d'autre. J'en conclue donc avec, comment il s'appelait, C.S. Lewis, l'écrivain chrétien anglais, que le plaisir est une invention de Dieu, c'est pas une invention du diable. C'est pas une invention du diable. Le diable a perverti derrière. Ça, c'est vrai. Il nous a poussé à chercher notre plaisir hors des cadres que le Seigneur nous avait proposé. Ça, c'est vrai. Mais le plaisir est une invention de Dieu. C'est un don de Dieu pour lequel on doit dire merci au donateur. C'est une chose merveilleuse qu'un homme et une femme saines puissent se donner du plaisir, de la joie, du bonheur l'un à l'autre. C'est une chose merveilleuse. N'est-ce pas Dieu qui nous a donné des sens? Donc, encore, pardonnez-moi si mes propos vous semblent crus, mais n'est-ce pas Dieu qui a créé les organes du plaisir? Nous ne les avons pas développés par nous-mêmes. C'est Dieu qui nous les a donnés. Mais le plaisir n'est pas un but en soi. Ok? Sa recherche peut être purement égoïste. Autant il renforce l'amour quand il est donné, quand il est partagé pour le bien-être de l'autre, autant il peut détruire l'amour quand il est recherché sans souci de l'autre, simplement pour sa satisfaction propre, en réduisant l'autre à un objet, un simple objet de satisfaction égoïste. Et le sadisme, par exemple, est une recherche de plaisir qui détruit l'autre, qui nie intégralement l'autre. On sait également que les tortionnaires éprouvent un plaisir de caractère sexuel lorsqu'ils pratiquent la chose, lorsqu'ils pratiquent la torture. Alors, le désir sexuel est une bonne chose, mais cesse de l'être quand il se mue ou convoitise, il devient le maître au point de revendiquer le droit de disposer de son partenaire ou de sa partenaire comme d'un objet pour sa satisfaction personnelle et non plus pour l'expression d'un amour profond dans le cadre du mariage. Alors, ne voir dans la sexualité qu'un chemin du plaisir, c'est l'appauvrir. C'est faire fausse route. Toutefois, et c'était le propos que je voulais apporter, le plaisir fait partie de la sexualité accordée par Dieu au couple. Abordons maintenant l'ingrédient central, l'ingrédient essentiel. Bon, je parle de la place centrale de l'amour. L'homme est un être grégaire, l'homme est un être social. La plupart des gens veulent avoir des communions. Je sais que les chrétiens aspirent toujours à avoir la communion fraternelle avec les autres, et c'est formidable. Mais je crois que l'humanité tout entière est comme ça. On a besoin de rencontrer quelqu'un, de voir les gens, de parler. Ça fait toujours plaisir. Moi, je trouve un grand plaisir à faire connaissance avec les gens. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, si vous êtes réfugié dans vos petites pantoufles là et vous figez dans une espèce de vie d'ermite là. Mais je crois que l'homme est un être grégaire, c'est un être social. Rappelons ce que la Bible dit au deuxième chapitre de la Genèse, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Dieu dit, je lui ferai une aide qui sera son semblable, son aide, son vis-à-vis. Je vais utiliser le terme déjà, n'est-ce pas? Il est entré dans notre pensée, vis-à-vis. L'homme créé pour aimer ne peut s'épanouir dans la solitude. Il a besoin d'un vis-à-vis, il a besoin d'un autre semblable et pourtant différent, d'un partenaire avec qui il puisse construire une vie commune, un partage. N'aimer que soi-même, c'est s'appauvrir. Encore une fois, vous me direz, oh, monsieur Baudelaire, vous êtes philosophe. Ouais, ben, désolé, ça fait partie, comme je dirais, de ma culture générale, hein, d'ici de mes années de jeunesse, là. Un certain, le philosophe Louis Labelle, dans son livre L'erreur de Narcisse, vous connaissez Narcisse? Ouais, ce jeune grec, si beau, presque aussi beau qu'Armand Flavin, hein, si beau, qu'en voyant son image dans l'eau d'une fontaine, fut attiré par son propre reflet et englouti par la fontaine. Bon, Louis Labelle disait ceci. Et j'ai plutôt tendance, moi, à le rejoindre dans ce qu'il dit. Dieu, dans sa souveraine sagesse, dit Adam, se chercher lui-même, et le dédoublant, selon son désir, le désir de Dieu, donc, il fit apparaître devant lui le corps de la femme auquel il put se joindre sans s'anéantir, sans disparaître. Un couple, c'est vraiment, l'optimalisation de deux êtres. Ce qu'il y a de plus profond, ce qu'il y a de meilleur en l'homme peut jaillir de cette union, de ce mariage. La sexualité est une force qui arrache l'homme à sa solitude, à son égoïsme. La sexualité est donc donnée d'abord pour parachever une relation d'amour, je le répète, dans le cadre du mariage, hein, pour ne pas être mécompris par quelqu'un ici, pour ne pas être mal interprété par quelqu'un. Par sa nature même, la sexualité demande la présence d'un autre. Elle ne peut donc jamais être ses plaisirs solitaires. Pas besoin d'épiloguer là-dessus. Bon. Elle implique une chaleureuse communication, elle implique un réel échange. La sexualité voulue par Dieu implique cet échange, ce don de soi-même à l'autre. Le propre de l'instinct sexuel, là, écrit un psychologue, dont j'ai oublié le nom, j'ai noté la phrase quelque part, et de faire intervenir deux individus, et ce psychologue a ajouté quelque chose d'important. Il a ajouté avec justesse que la comparaison de l'instinct sexuel avec la faim ou la soif est tout à fait fausse. Tout à fait fausse. On ne peut pas parler de l'instinct sexuel qu'on a besoin de boire ou de manger ou je ne sais quoi. Donc on pourrait réfuter la notion d'instinct. Mais il a ajouté donc des individus qui s'accouplent comme ils mangent ne sont pas des modèles de bonheur. Simplement pour satisfaire un désir sexuel, non, hein, ça ne veut pas produire le bonheur. Dieu, donc, au commencement, a dit, je ferai une âme, une aide qui sera son vis-à-vis. Le mot qui est utilisé là, en hébreu, le mot aide, ne peut être compris, ne peut pas être compris ici dans un sens domestique. J'ai besoin d'une bobonne là, pour faire le travail à la maison. Hein. Ça ne peut pas être compris dans ce sens-là. En effet, le mot hébreu est souvent appliqué à Dieu lui-même quand il vient aider les hommes. Il s'agit d'un vis-à-vis. C'est le sens littéral du mot hébreu. Vis-à-vis. Tu sais ce que ça veut dire vis-à-vis? C'est quelqu'un qui est en face de moi. Hein? C'est mon interlocuteur privilégié. C'est quelqu'un qui le regarde droit dans les yeux. C'est quelqu'un qui se tient devant l'homme. C'est quelqu'un à qui il parle et qui lui répond. C'est quelqu'un avec lequel on a une communication, un échange. La sexualité biblique présuppose une relation telle que celle-ci. Une relation interpersonnelle, une relation de dialogue, une relation de réciprocité. Et non pas la relation d'un dominant à dominer, d'un possédant à objet. Alors, je comprends que les femmes soient rebiffées contre les machistes. Je comprends facilement. Hein, quand Virginie sort son drapeau, je comprends ça. Mais je crois qu'elle a une conception qui est un petit peu tronquée de ce que sont les hommes. Et on va s'efforcer ici à l'Institut de leur montrer que les hommes ne sont pas forcément toutes ces femmes qui ont été bafouées par des machistes. Au contraire, le christianisme a permis justement l'épanouissement autant de la femme que de l'homme. Tu me pardonnes, Virginie? Thank you. vis-à-vis. La Bible l'exprime, la Bible exprime toute la chose d'une manière assez cocasse, assez amusante. Hein. Après avoir dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait passer devant Adam toutes sortes d'animaux. Un lèpre! Oh là! Un contrôleur! Oh non, merci! Pourquoi pas une huître tant que vous y êtes? Hein? Donc, aucune de ces créatures ne pouvait répondre aux besoins de communion de l'homme, aux besoins de réciprocité de l'homme. Alors Dieu lui présenta la femme, et du coup Adam, plein de joie, hein, j'arrive à m'imaginer cette scène, je vais lui poser la question, mais j'arrive à m'imaginer cette scène, Genèse chapitre 2, verset 23. Il fallait la faire tout de suite, hein. Celle-ci au moins est peau de mes os, chair de ma chair, et comme le dit une version paraphrasée, comme il y en a des milliers maintenant en France, hein, ça tous sont des échantillons, des versions paraphrasées, là. Le solide traduction, on en a quelques-unes quand même, mais les versions paraphrasées, qu'est-ce que ça dit, hein? Mais cette version paraphrasée dit, ah, cette fois, voilà un autre moi-même, qui tient de moi par toutes les fibres de son corps. Et je pense qu'il y a la substance, là. Je pense qu'il y a la substance. Adam avait maintenant devant lui une personne qui était son semblable, en qui il se reconnaissait, bien qu'elle fût différente. Et j'aime que les femmes soient différentes. J'aimerais pas que les femmes soient aussi, pas comme nous, là. Monsieur David Mainford a déjà expliqué certaines différences, là. Et c'est vrai que c'est un miracle que les femmes et les hommes s'entendent, parce que on ne réfléchit pas de la même manière, on ne réagit pas de la même manière, on n'analyse pas les choses de la même manière. On est vraiment deux êtres avec qui sont nécessairement complémentaires, quelque part. Nécessairement. Mais c'était un être que Adam voulait aimer, et qu'il pouvait aimer, et qu'il pouvait l'aimer, un être devant qui il se sentait responsable, c'est-à-dire qu'il ne saurait traiter comme un simple objet de désir ou une espèce d'esclave. J'espère que vous saisissez maintenant pleinement les deux attitudes résolument différentes que je vous présente. Quelqu'un a dit, quand je me promène à la campagne et que j'ai soif, si je vois une fontaine, je prends de l'eau. Mais s'il n'y a pas de fontaine, que je vois une maison, je demande de l'eau et j'attends une réponse. Ok? Ça, c'est le comportement que nous devons avoir l'un envers l'autre. La relation sexuelle demande l'accord. L'accord. Le consentement du ou de la partenaire. Le désir qui me porte vers l'autre ne doit pas devenir simple convoitise. Il ne me donne pas un droit sur l'autre. Et cette idée de réciprocité est fortement soulignée dans la Bible. On cite souvent Éphésiens 5, 22. Virginie va encore une fois pointer ses oreilles, là. Femmes, soyez soumises à vos maris. Mais ce que Paul a écrit s'inscrit dans un contexte bien plus global. Si vous regardez juste avant les versets, qu'est-ce qu'il dit ces versets juste avant? Il montre qu'il y a une soumission mutuelle. Cette soumission mutuelle a déjà été préconisée. Hein, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ ou par respect pour le Christ. Il y a déjà une soumission mutuelle qui a été mise en place, là. Cette réciprocité est confirmée encore, parce que ce que Paul a écrit dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 7, j'y faisais allusion tout à l'heure, les versets 4 à 5, à propos des relations intimes du couple, hein, je vais dans le texte pour ne pas en intérêt. Ce n'est pas la femme qui dispose de son corps, c'est son mari. Ah, les machistes ne comprennent pas. Non. De même, ce n'est pas le mari qui dispose de son corps, c'est sa femme. Ah, mais c'est possible. Hein? Ne vous privez point l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord, pour un temps, afin de vaquer à la prière, puis y retourner ensemble, de peur que Satan ne vous tente à faire quoi? Ah, irréparable. Hein, avec quelqu'un d'autre. Donc, l'un, l'autre. C'est donc une relation de réciprocité qui doit prévaloir. Celle que Dieu veut pour l'homme et pour la femme. Bien entendu, la réciprocité ne se limite pas aux seuls actes sexuels, hein. La réciprocité, c'est surtout tout. Tout ce qui se vit dans un couple, tout ce qui se fait dans un couple, eh bien, ça se discute, ça se partage, et ça se décide. Et donc, réciprocité. Tu vois un petit peu que ma position est quand même différente des machistes, là, non? L'aspect physique de la relation qui unit un homme et une femme ne suffit pas à donner à la sexualité toute sa signification et toute sa dimension. Elle ne prend tout son sens que lorsqu'elle exprime, et ma femme le dit souvent, l'amour, la tendresse, l'affection, la confiance. Monsieur Mainfort, David de son prénom, a souligné que les hommes étaient fortement attirés hein, sur le plan physique, alors que les femmes avaient besoin de contact, avaient besoin de parole, avaient besoin de tendresse, avaient besoin d'affection. On a besoin de mille et un gages de notre amour. Il arrive que des rapports sexuels se passent sans amour, en n'engageant que des corps. Mais cela ne répond en rien à l'intention divine pour l'homme et la femme. Et donc, l'union sexuelle, dans le cadre du mariage, célèbre et magnifie la communication de ceux qui s'aiment. Elle révèle, elle accentue, malheureusement, le fossé entre ceux qui ne s'aiment pas. L'importance de l'affectivité, l'importance du sentiment, se voit dans le simple fait que ce n'est pas vers n'importe quelle femme qu'un homme est attiré, mais vers celle qui a su émouvoir non seulement son corps, mais aussi son cœur. J'ai rencontré mon épouse à l'école biblique. Nous avions le même groupe d'amis. Et j'ai observé Bérénice, hein. Je ne vais pas vous faire des confidences que vous allez pouvoir envoyer à François ou je ne sais pas quel canard. Hein. Mais j'ai rencontré mon épouse et j'étais très attiré, alors vous allez être surpris, j'étais très attiré par sa réserve, par sa pudeur, je ne pouvais pas m'approcher d'elle. Je vous garantis, hein, le contact de fille, ça. Vous pouvez même m'approcher d'elle. Hein. J'avais l'impression d'être pas lépreux. Moi, je venais de France. J'étais converti quelques années auparavant. Hein. J'avais encore des idées biscornues. Ouais, je pensais que... Oh, j'avais la... Oh, comme c'était le Q. Hein. Oh, ma chérie. Je pouvais même pas m'approcher d'elle. Alors, l'école nous permettait hein, d'avoir des activités en commun, d'avoir de pouvoir se fréquenter. Hein. Alors, on se fréquentait sans contact. Et c'est la beauté de son père qui m'attirait. Son amour pour le Seigneur. Son désir de servir le Seigneur. Son envie d'aller sur le champ missionnaire proclamer l'évangile de Jésus-Christ. C'était cet amour pour Jésus-Christ qui m'a profondément ému. Bon, elle avait beaux yeux verts. Hein. Elle les a toujours d'ailleurs. Et mon Dieu, je m'arrête. Sur laquelle je peux vous garantir que ma vie a été transcendée par le mariage. C'est quelque chose d'extraordinaire. Pouvoir vivre à deux, partager ses joies dans le Seigneur, ses combats dans le Seigneur. C'est extraordinaire de pouvoir s'épauler, s'exhorter mutuellement, s'encourager mutuellement, prier ensemble, voir les enfants grandir, infléchir leur vie de telle sorte qu'ils puissent aimer le Seigneur. C'est extraordinaire. Mais cette relation d'affection, de tendresse, d'amour, c'est ce qui rend l'acte sexuel, la sexualité extraordinaire. L'absence de cela, ça devient un exercice physique parfois complexe. J'aimerais apporter la dernière dimension, je terminerai avec ça. Je ne dis pas que mon message est terminé, attention. Hein. Je dis que je terminerai avec ça. Le cadre unique de l'amour sexuel, c'est le mariage. Est-ce que vous avez entendu ce que je dis? Parce que je vais pas faire un discours sur pas de relation pré-maritale. Je dis simplement que Dieu a donné un seul cadre à l'expression de l'amour et de l'amour sexuel, c'est dans le cadre du mariage. Après avoir donné la femme à l'homme, Dieu dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père, sa mère, s'attachera à sa femme, ils deviendront une seule chair. Mais ils quittent papa et maman hein, pour s'attacher à sa femme, une seule femme, une seule femme. Vous allez voir que ça c'est le prochain verre qui saute en France. Hein. Il y a déjà des polygames en France. Il y en a déjà. Le Seigneur Jésus cite le même verset en Matthieu 19, hein, on l'avait vu ce matin, quand on l'interroge sur le divorce. Et c'est là, à ses yeux, l'intention divine, que l'homme et la femme s'attachent l'un à l'autre. Il n'a pas dit qu'ils se rencontrent de temps en temps pour une relation sexuelle et ensuite, boum, ils partent dans toutes les directions. Non, ils s'attachent l'un à l'autre. Ils deviennent une seule chair, de manière permanente, dans un cadre défini. Le verbe s'attacher en grec, c'est le verbe polio, ne peut donc s'appliquer à une rencontre passagère. C'est pas possible. Il n'y a pas attachement là, quand c'est une rencontre passagère.